Ces visages, deuxième bande.
Ah non, ah désolé, je suis pas Olé Hadash, mais je suis désolé. Désolé Hadash. C'était pas la question de monsieur, hein. Il y a un amalgame. J'ai pas dit ça. Et d'ailleurs, c'est pas fait. Répétez votre question.
Non, la question que j'avais posée, c'était de savoir ce texte-là. N'impliquait pas le fait qu'il n'y avait aucune possibilité que le Mashiach vienne.
Voilà. J'ai dit maintenant, c'est une question théorique, parce qu'on est à la fin de ce temps-là. D'après le Maharal lui-même, maintenant, c'est une question théorique. C'est clair, ce n'est pas la même chose. Vous avez compris ça, mes seigneurs. Bien. Vous voulez qu'on fasse une pause ou on continue? Quelle heure est-il? Il est arrivé, il faut s'arrêter. Bien, alors on fait une pause. Et jusqu'à demain.
Madame, est-ce que vous pourriez lui donner une définition du monde à venir?
Du monde
à venir. Monde à venir. Qu'est-ce
que ça? C'est un autre séminaire, ça.
Oui, bien sûr, mais... Oui.
Écoutez, je vais très vraiment très brièvement, succinctement, disons, me relier un peu à votre question.
Parce qu'il y a plusieurs personnes avec qui j'en ai parlé qui disent qu'ils n'ont pas d'idée précise sur la question.
Personne, mais...
Ah bon?
Non, l'idée, je précise, vous savez, il y a un enseignement de la Gemara qui se trouve deux fois dans le Talmud, et c'est une controverse au sujet de la portée de la prophétie des prophètes. Alors il y a deux opinions, la première qui dit que les prophètes n'ont prophétisé que pour les temps messianiques. Le monde à venir, alors on cite un verset à ce propos, « Aïn lo ra'ata, aucun œil ne l'a vu, zulatra, Elohim zulatra sela, sauf toi Dieu seul. » J'ai souvent eu l'occasion de lire ou d'entendre plus ou moins directement que c'est une question qui... d'un point de vue intellectuel, comme vous dites d'ailleurs, mène parfois à des pièges. Il ne faut pas faire dire à cette Gemara que la Gemara aurait voulu dire qu'il n'y a pas de monde à venir, mais que le monde à venir est d'une nature telle que l'œil ne peut pas le voir. Et je citerai surtout la base de l'explication du Maharal, c'est que le propre de la prophétie, c'est de voir le monde, donc ce monde-ci, comme il est dans sa vérité totale, dans sa vérité essentielle, c'est la prérogative du prophète, et c'est pourquoi il est appelé aussi parfois le voyant, le rosé, de voir, de pouvoir percevoir, de se représenter ce monde-ci dans sa vérité totale, et pas seulement dans une perception des apparences de ce monde. Et c'est la raison pour laquelle le prophète peut expliquer l'histoire du monde. Le prophète n'est pas essentiellement un devin qui donne des prédictions, mais c'est un prophète. Je ne voudrais pas prendre trop de temps, mais enfin, je dirais si c'est suffisant pour l'essentiel. C'est un prophète, c'est-à-dire celui qui peut dévoiler, expliquer aux créatures qui n'en ont pas la capacité, la signification de l'histoire de notre destinée dans ce monde-ci. Et le prophète a un privilège, une capacité, encore une fois, je dirais presque sensorielle à la limite, il est capable d'écouter en vérité, de voir en vérité, de parler en vérité. Et il y a ces trois catégories qui désignent le prophète dans le récit biblique. Alors que le monde à venir est une certitude, est une connaissance que je vais essayer de décrire rapidement, qui nous est transmise par la prophétie, mais que nous ne pourrons pas avoir représentation. C'est une connaissance à laquelle nous sommes reliés par la sagesse, la chokhma. Le hacham est capable de se situer en relation au Olam Haba. Alors que le discours du prophète, c'est le discours de la vision du prophète de ce monde-ci. Par conséquent, la prophétie n'a pas pour objet de nous parler du Olam Haba. Ça peut se relier en particulier au fait que il y a une controverse que le Talmud cite entre les pharisiens et les sadducéens sur la question de savoir pourquoi le texte de la Bible ne parle pas explicitement du monde à venir en particulier. Et ce que je pourrais en dire, on dirait si c'est suffisamment clair, il y a une connaissance de ce monde-ci qui implique la certitude de l'existence d'un monde à venir. J'ai l'habitude d'expliquer de la manière suivante. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de l'état de ce monde. Et si nous ne pouvons pas, nous, les créatures, nous satisfaire de l'état de ce monde, à plus forte raison, le créateur lui-même. Il y aurait une contradiction, une espèce de collision de concepts, à la limite blasphématoire, entre l'idée de Dieu dans sa vérité totale et la représentation que nous avons de ce monde. M. Gordain, avait l'habitude de dire que les anciens philosophes grecs n'admettaient pas l'idée que Dieu était créateur du monde parce qu'ils considéraient, eux, qu'imputer à Dieu la création de ce monde serait blasphématoire. Comment imputer un monde aussi imparfait, je pousse les choses à la limite, que ce soit bien clair, comment imputer un monde aussi imparfait à Dieu avec l'idée que l'on s'en fait. Et s'il y a dans la conscience humaine capacité d'une exigence d'un au-delà de ce monde, à plus forte raison que, comme j'ai dit tout à l'heure, on est obligé d'admettre que ce monde-ci n'est pas le dernier mot de la volonté du Créateur. Encore une fois, il y a une manière de percevoir ce monde-ci qui enveloppe, qui implique, qui véhicule la certitude que ce monde-ci n'est que le ce monde-ci d'un monde à venir. Nous avons étudié cela une fois, je suppose, dans un des séminaires concernant l'identité de Yitzhak, du patriarche Yitzhak. C'est un peu relié à notre sujet d'ailleurs, ce que je veux dire maintenant, que la décision de Sarah de faire séparer Ishmaël de Yitzhak, certains d'entre vous se souviendront que nous avons étudié cela, vient de ce que Yitzhak est précisément le juste qui ne peut pas se satisfaire de ce monde-ci. Le rire dans ce monde-ci lui est interdit. Son nom signifie Yitzhak, il rira, le rire au futur. Et lorsque Sarah perçoit que Ishmaël rit au présent, elle demande à Abraham de les séparer. Et est-ce que c'est suffisamment clair? C'est-à-dire qu'il y a d'abord une question de connaissance par la foi que ce monde-ci ne peut être que le ce monde-ci d'un monde à venir. Et par conséquent, encore une fois, si j'ose dire, notre perception de ce monde-ci est en elle-même la preuve, la certitude d'un Olam Haba, d'un monde à venir. Je ne peux que vous proposer une formule un peu littéraire, poétique, si vous voulez. C'est le monde à venir de chacun, c'est le monde de chacun tel qu'il aurait voulu qu'il soit, pour qu'il soit vraiment un monde. Est-ce que c'est suffisamment clair, hein? Alors donc, non, je vous en prie, ne nous interrompez pas comme ça. Et je crois que la manière la plus directe de le dire, c'est en me référant de nouveau à l'explication de base du Maharal, que c'est le Hacham par la sagesse qui connaît le monde à venir, mais le prophète ne le voit pas. Et par conséquent, il est tout à fait normal, ce parfois vous avez commencé, de découvrir que personne n'a idée claire de ce que ça peut représenter le monde à venir. J'ai employé de nouveau le mot que vous avez employé, le mot idée, parce qu'il fait problème. Précisément, nous ne pouvons avoir connaissance que conceptuelle du monde à venir, donc par des idées. Mais on a l'habitude de dire, en voulant dire représentation concrète, idée, dans le sens de la question que vous avez posée. Je referme la parenthèse purement sémantique. C'est un peu dans ce sens que la Gemara dira Hacham Adif Nabi. Je ne traduis pas pour ne pas rentrer dans une autre parenthèse, mais je vais le relier à une autre question. C'est que la Chochma nous permet, la sagesse nous permet de connaître la loi du comportement, la Torah en tant que loi, et la Halakha. La Halakha, c'est la Chochma par excellence. Or, la Halakha, c'est pour le monde. C'est pour le monde à venir, c'est pour ce monde-ci. On vit dans ce monde-ci, selon la Halakha, mais c'est la Halakha qui nous permet d'accéder au monde à venir. Et c'est pourquoi le Hacham, maître de la Halakha, nous dirige vers le monde à venir. Le Navi, le prophète, nous fait comprendre dans quel monde nous sommes dans ce monde-ci. C'est pourquoi on ne demande pas une Halakha à un prophète. Et lorsque un prophète dit halakha, c'est parce que d'autre part il est aussi haram et s'entend par haram. Est-ce que c'est clair la nouvelle parenthèse que je vous ouvre? Je voudrais vous raconter une histoire chassidique beaucoup plus que j'ai entendu très longtemps, il me semble que j'ai dû le citer une fois. C'est que vous savez, dans le temps traditionnel, les rabbins n'étaient pas désignés par élection, ils étaient désignés par leur maître. Mais dans les temps récents, finalement, ce sont les, comment on appelle ça, les consistoires, si vous voulez, qui désignent leurs rabbins et les mettent un poste en concours. Bon, on vivra avec son temps, disons. Et alors, dans une petite ville juive, alors il y avait un concours pour un poste de rabbin, et puis deux rabbins se sont présentés, et le Varad, en fait, disons, le consistoire, a fait passer un examen, si on peut dire, entre guillemets. Et puis alors, on a présenté au premier un morceau de viande en lui expliquant comment on avait obtenu cette viande-là. Est-ce que c'est cachère ou pas? Alors, il regarde la viande, il la sent, et puis il dit, oui, c'est cachère. Bon, le deuxième, c'est un rabbin chassid. Le deuxième, c'est un rabbin mitnagé. Il a passé pendant 4 heures à argumenter, tirer toutes les vues de la bibliothèque, et a démontré que c'était cachère. C'est le deuxième qui a été... Le premier avait raison aussi, c'était cachère. Mais c'est pas comme ça qu'on décide la halakha, par des conduites prophétiques. On décide la halakha par la sagesse. Vous avez compris la différence? Alors le hacham adif minavi, dans ce sens-là, que le hacham me mène grâce à la halakha au olam haba. Le navi me fait vivre en vérité dans ce monde-ci, dans la vérité de ce monde-ci. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? D'où la Gemara que je vous ai citée, Olamava, Aïn Loraata, Elohim Zulatra Sela. C'est-à-dire, nous ne pouvons percevoir le monde à venir que par les yeux de l'esprit, pas par les yeux de la représentation. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il y a une espèce de certitude absolue, c'est une manière d'être que porte la conscience hébraïque dès qu'elle ouvre les yeux, dès qu'elle s'éveille à ce monde-ci qu'il y a un monde à venir. Parce qu'il n'est pas possible que le projet du Créateur soit ce monde dans l'état où il est encore. Est-ce que c'est clair? Je veux dire ça très fortement. C'est une question de connaissance par la foi. C'est une manière d'être qui est au-delà du raisonnement. Dès que la conscience s'éveille à son existence, elle se perçoit dans un monde dont la Bible nous dit, dont la Torah nous dit que Dieu l'a créé, alors il est certain que c'est que le commencement d'un processus qui mène à un monde à venir. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, c'est ce que dit la Bible. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Ce n'est pas un chidouche, c'est le pshat du verset. C'est au commencement que Dieu crée. Il commence tout un processus qui fait venir le monde qui vient, et qui fait venir ce monde-ci, qui fait advenir ce monde-ci au monde à venir. Donc, il n'y a pas à s'étonner, au contraire, que nous n'ayons pas de façon directe dans les versets de la Torah écrite, une indication, il y a un monde à venir. Si la Bible devait nous dire, premièrement, il y a un monde à venir, c'est que ce n'est pas à nous qu'elle parle. La Bible ne parle qu'à ceux qui vont au monde à venir. Alors si elle a à leur dire, vous savez où vous devez aller, c'est que ce n'est pas eux qui vont. Vous avez compris ce que je veux dire. J'ai l'habitude de citer le manuel du parfait soldat suisse. Si on dit aux soldats suisses, que pour tirer, il faut un fusil, et que dans un fusil on met des balles, et que des balles, etc., c'est que c'est pas un soldat qu'on parle. Bon, je vous donne un autre exemple. Si Manuel du parfait pompier. Si on dit aux pompiers, premièrement, sache que le feu brûle, deuxièmement, sache que l'eau éteint le feu, le choukran à l'eau du pompier, c'est que c'est pas un pompier qu'on parle. Est-ce que c'est clair? Okay. Si la Torah avait à nous dire, il y a un monde à venir, c'est que c'est pas nous, c'est pas Israël qu'elle parle. Lorsque Israël aura à témoigner de sa connaissance de la foi aux autres peuples, Israël parlera et argumentera qu'il y a résurrection des morts, qu'il y a monde à venir. Mais la Torah d'Israël n'a pas à dire cela à Israël, ça signifierait que ce n'est pas Israël qu'elle parle. Est-ce que le raisonnement est clair? Je donnerai un autre exemple par rapport à votre question. C'est... que j'ai étudié à propos de l'enseignement de Descartes sur les preuves de l'existence de Dieu. Eh bien, de l'enseignement de la Torah, il apparaît que nous évoluons tout à fait en dehors de ce processus philosophique, métaphysique, de théologie philosophique de tentative de prouver par la raison et le raisonnement l'existence de Dieu. À une certaine limite, à un certain niveau, si vous voulez, ça paraît à la pensée rabbinique comme infantile comme préoccupation. Vous avez plein d'orgueil. Et ça voudrait dire qu'au moment où mon raisonnement prouve que Dieu existe, à ce moment-là, il commence à exister. Et comme si ça dépendait de mon raisonnement. Et d'autant plus qu'un raisonnement ne convainc que celui qui admet déjà les postulats du raisonnement. Et c'est pourquoi chacune des catégories de ce qu'on appelle les différentes preuves de l'existence de Dieu dépend de la famille intellectuelle qui admettrait le postulat du raisonnement ou pas. Par exemple, raisonnement par causalité, raisonnement par finalité, etc. D'où, dans l'atmosphère des études rabbiniques, toutes ces préoccupations théologiques-philosophiques apparaissent comme infantiles, absolument. Bon, elles ont leur objet dans la culture humaine, mais on ne trouve pas trace de cela dans l'enseignement de la Torah. Ce n'est que très tardivement, lorsqu'il faudra argumenter, dialectiser, comme on dit en français, discuter avec les athées, qu'on aura besoin d'une athéologie. Enfin, une théologie. La théologie avec un apôtre. Tout à fait autrement, par exemple, dans l'enseignement que donne Abraham, c'est en me connaissant comme créature, par le fait que je me connaisse comme créature, dans ce fait même est enveloppée la connaissance absolue que j'ai un créateur. Me connaissant comme créature, je connais le créateur. Est-ce que c'est clair la différence? Et c'est une connaissance de l'ordre de la sagesse de la foi qui est de l'ordre de la valeur morale beaucoup plus que de l'ordre de la valeur intellectuelle. Parce que se connaître comme créature, c'est une vertu du type de l'humilité. Ceux qui ont suivi l'enseignement du rabbin Gage au colloque des intellectuels il y a quelques jours, non, c'est pas le même public, il a mis l'accent sur le fait que beaucoup de sources nous enseignent cela, vous avez sûrement entendu dans vos études, qu'on peut vraiment accéder à la Torah que si on passe d'abord par l'épreuve de l'humilité de la pensée. Et avec Anava, Ira. Allez. Et donc, je crois qu'il faut bien mettre en évidence. La conscience hébraïque adulte se connaît d'emblée dans un certain cadrage de sagesse de la foi où, pour elle, ce monde-ci, c'est évidemment le ce monde-ci d'un monde à venir. Pour elle, la créature est évidemment la créature d'un créateur. Et peut-être que je me borderai donc à cette formule, me connaissant comme créature, et c'est donc de la vertu, je connais mon créateur. Je connais premièrement, dirait Descartes, que Dieu existe. Mais pas du tout par un raisonnement à la Descartes. Est-ce que c'est suffisamment clair? Alors là, maintenant je passe en poésie, si vous voulez. Je crois que les enfants savent cela, savent quel est leur monde à venir. C'est le monde de leur rêve intérieur, leur monde, le monde de chacun. Il y a des formules dans beaucoup de Mishnayot qui parlent de ce problème, du mérite d'accéder au monde à venir. Par exemple, une des formules les plus connues, cette vertu lui a fait acquérir son monde en un instant. Son monde, le monde de chacun. Et encore une fois, c'est du domaine de l'indicible parce que ça devait faire partie de ces choses qu'il est interdit d'étudier avec plus d'un élève à la fois. Pourquoi? Parce que c'est absolument singulier. La connaissance du monde de chacun tel que chacun souhaiterait qu'il soit pour être un monde vivable. C'est ça le monde à venir de chacun. Et je ne sais pas si vous avez suffisamment clairement expliqué. Je crois que c'est un peu dans cet ordre-là qu'il faut en parler. Bien. Oui, je vous en prie.
Génération d'hommes, ou même simplement un groupe d'hommes d'une même époque, le qualificatif de sage ou de rabbin. Alors que difficilement peut-être un individu qui a accès à la sagesse est hors de tout contexte déjà dogmatique. Enfin, il me semble que la sagesse, c'est une chose qui est le fruit de toute une vie de recherche et non pas une attribution par d'autres, par une catégorie d'individus dans le même cercle.
Attendez, il va falloir une élucidation des termes d'abord. Qu'est-ce qu'on entend par sage? Mais.
Alors, vous avez parlé des
sages. Oui, non, mais je pose la question. Mais expliquez votre question. Elle porte. Donnez-moi des exemples de personnages.
Par exemple, le cadre du Sanhédrin, une catégorie de Haramim qui ont dicté des lois qui s'appliquent encore à notre époque, qui sont les contraintes encore à notre époque, qui sont donc faites par des Haramim et que moi je considère comme des abus de pouvoir.
Bon, mais c'est au conditionnel.
En plus, ce qui me paraissent être plutôt le fait d'une réflexion d'un groupe d'hommes, mais pas tant le résultat de la sagesse
alors,
proprement dit.
Écoutez, et bon, alors je commence par là. Qu'est-ce qu'on entend par la sagesse? Et alors, chaque école philosophique aura sa définition de la sagesse. Et donc, nous sommes obligés de partir d'une définition formelle pour notre sujet. Qu'est-ce qu'on entend par la sagesse de la Torah? Et je vous citerai des Zohar qui dit Chochma bagoïm ta'amin, Torah bagoïm al ta'amin. C'est-à-dire, si on te dit qu'il y a de la sagesse chez les nations, crois-le. Il y a des sages des nations. Si on te dit qu'il y a de la Torah chez les nations, ne le crois pas. Il n'y a pas de Torah chez les nations. Et ensuite, un verset du prophète Jérémie dans les Lamentations, dans Echa, le début du verset m'échappe. Mais c'est Bagoïm en Torah, Al-Khou, Bagoïm en Torah. Lorsqu'Israël va en exil chez les nations, Bagoïm en Torah, il n'y a plus de Torah. Et alors le Midrash isole les mots, Bagoïm en Torah. Dans les nations, il n'y a pas de Torah. Donc il y a une différence de nature, suivant cet enseignement de la Gemara, entre la sagesse et la Torah. Nous avons l'habitude d'appeler Chachamim, mais plus exactement, c'est ça dont je parlerai plus, Talmidei Chachamim, et là il y a une clé, disciples des sages, les sages de la Torah. Donc, il ne s'agit pas, alors nous disons que les Haramim et les Haramim, des sages d'une école de sagesse philosophique quelconque. Je me demande si, dans votre question, il n'y a pas allusion à cela, la sagesse dans le sens d'une sorte de philosophie de vie, disons, la sagesse de Socrate, la sagesse du Bouddha, la sagesse de Lao Tzu. Il ne s'agit pas de ça, ça c'est vraiment très inférieur par rapport à ce dont il va s'agir, en fait. Il s'agit de la connaissance de la Torah en tant que la Torah est la révélation de la volonté du Créateur pour la conduite des hommes. C'est énorme comme définition. Ce sont ces sages-là, et c'est très rare, dans le monde. C'est les Chachmi Israël, comme nous les appelons. Et il est indéniable que si on prend les choses au sérieux, le premier point, c'est que il y a eu événement où Dieu, le Créateur, a révélé sa volonté pour la conduite humaine. Il l'a révélé à travers les prophètes qui ont confié cette loi à ce que nous appelons les sages, capables de la connaître. Donc le problème, le mystère, si vous voulez, entre guillemets, c'est comment est-il possible que des hommes, quelle que soit leur capacité intellectuelle, spirituelle, soient capables de connaître, de comprendre et de deviner et de savoir quelle est la volonté de Dieu pour la conduite du monde. C'est à ce niveau d'énormité que votre question se pose. Est-ce que c'est clair pour le moment? Bien. Je passerai par une définition que nous avions étudiée ensemble il y a très longtemps. Un des grands principes de la tradition juive, c'est Emunat Chachamim, la confiance que l'on fait à ce que disent les sages. Le problème que vous avez posé, le pshat, enfin la traduction directe, c'est d'ailleurs, ça vient d'une Gemara, du chapitre 11 de la Gemara de Sanhedrin. Qui appelle-t-on Apikoros, qu'on traduit par athée? Je ne vais pas entrer dans la sémantique du mot apikoros, et pourquoi le mot épicurien est devenu apikoros veut dire athée dans le langage rabbinique. C'est un autre problème. Qui appelle-t-on apikoros? On pourrait dire souvent celui qui ne croit pas en la parole de Dieu. Le Gemara tranquillement dit non, c'est celui qui n'a pas confiance dans les sages. Enfin, nous sommes tombés de niveau. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors, bien entendu, il y a un piège. Il y a un piège, je l'avais signalé par un peu la forme un peu aigu, pointu de votre question, il y a un piège, c'est le culte de la personnalité. Quoique en général, les sages ne sont pas forcément alités, mais enfin, il y a le risque de la personnalité. Mais dans la réalité, oui. Et, bon, mais ça, c'est les scories, ça, c'est la fausse monnaie. Ça, c'est l'exploitation de la naïveté par des. Bon, bref, pas de calomnie. C'est suffisamment clair. De ça on ne parle pas, que de ce piège-là. Donc il s'agit vraiment d'une catégorie de profil, d'envergure, de personnalité qui nous dépasse infiniment. C'est ce grâce à qui nous avons, chacun à son échelle, chacun s'accrochant à quelqu'un qui est un peu plus haut, et l'échelle est infinie, nous avons possibilité de nous accrocher à ce que nous appelons la volonté du Créateur. Quand c'est toujours sérieux, ça donne le vertige, donc je comprends. C'est que, je comprends votre question, c'est qu'à l'origine, il y avait un amalgame entre la philosophie et la révélation. Si bien entendu, un philosophe vient me dire, comme disait Musset en tant que poète, et je ne vous dirai que ce que Dieu m'a dit, quand Musset parle comme poète, c'est très beau, et je ne vous dirai que ce que Dieu m'a dit, et tout le monde sait, Musset y compris, que Dieu lui a jamais parlé. Okay. Mais et quand le prophète vient dire, voici quelle est la volonté du Créateur, et je la transmets aux sages qui sauront l'interpréter à chaque époque du temps, lorsque les questions du temps se posent. Ça nous dépasse infiniment. Alors notre maître nous avait appris une fois que cette expression est un rachamim, la foi que l'on fait au rachamim, et c'est encore plus profond que ça. C'est avoir confiance que les rachamim soient vraiment des rachamim. L'aïmouna, que les hachamim sont des hachamim. Et dès qu'on comprend à quel niveau ça se passe, ça nous dépasse. Et la question ne se pose plus. Alors ceci dit, il faut, comme dit la Galat Pessah, tseoulmat, il faut étudier. Bon, avant de goûter, je ne sais plus comment on dit, un pamplemousse, une pamplemousse, hein, avant de goûter du pamplemousse, personne ne sait quel est le goût de du pamplemousse. Hein. Alors on parle du pamplemousse. On dit, bon, mousse, je comprends encore, le pamplemousse c'est quoi? Eh bien, goûte. Vous avez compris le problème. T'as un mou ou le mou qui te rachète. On ne peut pas aller plus loin dans la désignation par allusion. À un certain moment, il faut l'expérience. J'avais une fois étudié un des premiers rachis de la Torah qui étudie le premier mot en disant on ne peut pas le comprendre au commencement. On ne peut pas le comprendre comme un état construit. Au commencement de quoi? Commencement de. Alors Rachid dit Enamikra Azé Omer et là Darshuni ou Darsheni. Ce verset ne dit pas autre chose que chercher mon sens. Ça veut dire, c'est pas comme si Rachid dit ce verset au commencement de créer le ciel et la terre n'a pas de sens direct. Cherchez-le, ce sens-là, cherchez, Droche, recherchez. Et puis, donc, deux exemples de la signification de ce mot de Bereshit, en disant il n'y a de Réchit, de commencement, que la Torah, d'après un verset qui dit que la sagesse est le commencement du chemin de Dieu. Il y a le commencement qu'Israël, Israël qui est appelé commencement de la récolte du Créateur. Nous avons vu ce verset d'ailleurs hier, déjà dans nos textes, il me semble. Alors voilà comment se dit ce Rashi habituellement. Et la Mikrasé Omeré la Darcheni. Ce verset ne nous dit pas autre chose que interroge-moi. Kémouche d'Archou Razal, comme ont étudié nos maîtres, En Réchit et la Torah, En Réchit et la Israël. Bon, et bien j'ai entendu une fois une autre lecture sans rien changer, ni dans l'ordre des mots, ni dans les mots, qui se lit ainsi En Amikra Azé Omer, En la Darcheni Kémouche d'Archou Razal. Point. C'est-à-dire, ce verset ne nous dit pas autre chose que « Étudie-moi comme les maîtres d'Israël m'ont étudié. » Deux points. Pourquoi? Parce qu'il n'y a de réchite que la Torah, il n'y a de réchite que l'Israël. La Torah, c'est la Torah d'Israël, Israël, c'est l'Israël de la Torah. Et quand Israël lit la Torah, c'est la Torah. Mais qui c'est cet Israël qui lit la Torah? Alors c'est la Torah, c'est les sages d'Israël. Et effectivement, ce texte, la Bible, et ça, nous pourrions avoir des exercices en travaux pratiques, est illisible si quelqu'un ne nous fait pas le lire. De rien dire, rien depuis le début jusqu'à la fin. Et j'ai eu l'occasion j'ai l'habitude de dire, moi je suis fasciné lorsque je découvre l'impact que ce livre a eu dans le monde entier à travers les traductions ineptes que l'on a répandues sur la planète. Et je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Et ceci dit, c'est fascinant de voir à quel point, à travers tous ces voiles de traduction, ce livre a empoigné l'humanité. Donc, ce qui signifie quelque chose. Mais qu'est-ce qui sait le lire? Alors, ça s'appelle les sages d'Israël. C'est ça qu'il faut découvrir et qu'on comprend. Et qui a une envergure d'identité qui nous dépasse infiniment. Il y a eu un amalgame de termes. On appelle rabbin n'importe qui. Alors, on appelle rabbin les rabbins du Sanhédrin, et on appelle rabbin, bref, les rabbins. Mais c'est pas la même catégorie. Est-ce que c'est clair? Alors c'est de là que vient l'amalgame. Il y a... Je voulais ajouter quelque chose pour éclairer cela, mais je crois qu'au fond, ça suffit. Et d'ailleurs, je donnais une expression qu'on place dans les rabbins, dans leur sermon. Chacun, les âmes de tous, étaient au Sinaï au moment de la révélation du Sinaï. Vous savez ce miracle, vous connaissez ce miracle. Et... chacun a au moins une fois dans sa vie l'expérience du Sinaï. C'est quand le texte qui est complètement fermé s'ouvre d'un coup, s'illumine, ça se referme. Il y a un petit clin d'œil. Et puis on a eu son Sinaï portatif, si vous voulez. Et c'est irréversible. Et bienheureux sont ceux qui ont ça tous les jours. Okay, c'est les Talmidei Chachamim. Mais mon expérience en tant qu'enseignant me montre que c'est indéniable. Personne ne peut le nier, qu'au moins une fois dans sa vie, s'il a vraiment enseigné, étudié, avec quelqu'un qui a vraiment enseigné, a eu cette expérience, qu'une fois le texte s'est ouvert, et il a vu que c'est vrai. Ensuite, ça se referme. Et alors la foi commence. Mais on sait, on a eu l'expérience, on a eu certitude. J'avais une fois cité ce raisonnement de type mathématique que nous devons à Poincaré, qui s'appelle raisonnement par récurrence. Si ça s'est démontré vrai une fois, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas vrai pour tous les versets. Et la Gemara, dans le chapitre 11 de Sanhedrin, va dire, et non seulement tous les versets, mais toutes les décisions des sages du Sanhedrin au sujet des versets. Tout simplement, il ne faut savoir comment pas. Voilà, c'est clair sur la question. On m'a souvent posé la question suivante, une minute. Il arrive très souvent, je ne sais pas si je vais arriver à décrire l'expérience. La première fois que ça m'a été expliqué comme ça, c'était chez le Rav Ashlag. J'ai entendu parler certainement du Rav Ashlag, le fils du grand Rav Ashlag du Soulam, du commentaire du Zohar. J'étudiais chez lui, c'était une nuit de Pessah d'ailleurs, je me souviens, et puis aussi son gendre, on étudiait. Et alors, on parlait. Et puis le gendre intervient en disant, je ne comprends pas. Mais je vois bien que vous comprenez, mais moi je ne comprends pas. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Alors le rab dit, entre nous un tuyau, un tsinor, mais entre nous une communication, tu n'es pas encore dans le coup, je t'appelle. Et il a cité un verset concernant l'histoire de Joseph qui rencontre ses frères. Et lorsque Joseph dit à ses frères, Alechem Aroot qui piam laver Alechem. Vos yeux voient que c'est ma bouche qui vous parle. Alors il a expliqué comme ça. Le verset aurait dû dire, vos oreilles écoutent, que c'est ma bouche qui vous parle. Non, il faut le dire comme c'est écrit. Il dit, vos yeux voient, parce que c'est ma bouche qui vous parle. Alors il explique un phénomène que vous avez dû certainement vivre. Il arrive que dans une étude, on comprend quand on est en train d'étudier, parce que Talmid Chacham est là. Et puis, on a fini l'étude, on ne comprend plus rien. On revoit les notes, mais ça ne veut rien dire. Narwan ? C'est clair, vous voyez, vous identifiez, ben, c'est ça. Vous avez dit votre maîtrise. Ah oui, David. Vous me permettez une minute que j'essaye d'adoucir. Oui, je t'écoute.
La chokhma, en fait, la chokhma, c'est le kouach dans le main. C'est un peu plus compliqué que ça, mais.
C'est exact ce que tu dis, c'est kouachma. Je vais dire l'enseignement de la Kabbalah. Je veux dire, juste par rapport à notre sujet, ça se relie à cette notion d'humilité dont on parle des hachamim authentiques. Kohma. Lorsqu'ils arrivent à ce niveau de vertu de dire comme Moshe Aaron, Benachnou Ma, nous ne sommes rien. Kohma. Bon, mais en Kabbalah, c'est beaucoup plus large comme problème. Gardons le sens direct du terme. Et j'ajouterai au fond à votre question. C'est que, quelle différence il y a entre le terme de sagesse, lorsque nous voulons traduire le mot hébreu de chokhma, et le terme de connaissance, c'est sagesse, c'est connaissance et vertu à la fois. Alors que la connaissance n'est pas forcément liée à la vertu de la valeur dont on parle au niveau connaissance intellectuelle pure. Je me souviens de mes cours de philosophie en Sorbonne. Nous avons de très grands professeurs. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de Louis Lavelle. c'était le philosophe des valeurs. Ben, il nous expliquait avec une honnêteté absolue, le philosophe n'a pas à vivre d'après sa philosophie. Le philosophe n'a pas à vivre d'après sa philosophie. Il explore des idées, on les expose. Et puis comme il vit, ben, il vit comme il vit. Elle dit, c'est un poteau indicateur. Elle dit, par exemple, c'est pas de lui, mais c'est de notre philosophe, on en veut de qui. Vous avez sur un chemin un poteau indicateur qui marque à droite. Eh bien, le poteau indicateur ne va pas à droite. Il vous dit d'aller à droite, mais lui il va au mieux. Vous avez compris ce que je dis. Bon, ça, c'est la connaissance qui n'est que connaissance. Dans la sagesse, il y a connaissance et vertu. Et alors, maintenant, quelle est la vertu? Chaque manière d'être homme a sa conception de la vertu. Chez les nations, il y a telle ou telle sagesse. La sagesse de type stoïcien, tout ce que vous voudrez. Okay. La Torah, c'est la sagesse comme Dieu la veut. Alors c'est à ce niveau que, voilà, il s'avère qu'il y a eu des hommes capables de... Moi je suis toujours interloqué par... Je vais citer Shmuel Trigano dans sa thèse, qui est un livre que je conseille de lire d'ailleurs, qui est une somme vraiment de connaissances sur les avatars d'un pensée juif dans l'exil. C'est pas comme ça qu'il l'intitule. Il l'intitule La demeure oubliée. Non, pas... le récit de la disparue des Mâchoires. C'est sa thèse d'histoire de la philosophie qu'il a fait avec Madame Kriegel. Kriegel, vous dites. Oui. La demeure oubliée. Il a une page là où il critique précisément tous ces auteurs qui écrivent des essais sur la pensée juive. Je ne me rappelle pas le détail des mots qu'il emploie, mais l'idée générale dit, quand on lit ces essais, on a l'impression que tout commence avec eux, avec l'auteur du livre. Okay. Et qu'avant, il y avait une espèce de préhistoire de bibliothèque. Okay. Mais que la pensée juive commence avec l'auteur de l'essai. Alors que la tradition rabbinique de l'étude, c'est le commentaire des textes fondateurs. Et qui est vérifié dans son authenticité par un certain nombre de règles, dont la principale est que Ahomet, Babar, Bachem, c'est-à-dire, on cite... de quoi on parle, au nom de d'où ça vient, comme ça vient. Est-ce que c'est clair ce que vient? Et ça m'a beaucoup frappé cette page-là. Alors, pourquoi j'ai cité Trigano? Quelle était la parenthèse?
La sagesse. La connaissance.
Oui, enfin, je vous citais donc... voilà, on risque de s'habituer à croire que... Oui, au fond, c'est ça. S'habituer à croire que la sagesse des sages est de même nature que celle des universitaires qui parlent des sages. Je ne sais pas si c'est clair, si vous le dites. Moi, je me souviens, dans mes premiers cours de philosophie, c'était déjà au lycée, ça m'impressionnait. J'avais un professeur dont j'ai oublié le nom, Lefebvre. Il y en a beaucoup de Lefebvre, ne comprenez pas. Il était un grand joueur de tennis en plus. Et d'un professeur de philosophie faisait partie de ce qu'on appelle l'éclectisme. Les écoles d'éclectiques. Ils choisissent dans tel ou tel système ce qui leur plaise et puis ils présentent une espèce de... Alors voilà, en schématisant, nous avions un cours, quel que soit le sujet, et donc Socrate avait pensé que, Descartes a pensé que, Kant a pensé que, et comme vous savez, comme disent les intellectuels juifs, chacun a son Kant à soi, mais Descartes a pensé que, et moi je pense que. Ça passait pas. Vous avez compris? Alors vous avez comme ça des... C'est ce piège-là. Vous avez comme ça cette attitude qui consisterait à dire Rabbi Akiva a dit que, Rabbi Yoshua a dit que, et le Gaon de Vilna a dit que, le Maharal a dit que, et moi je pense que... D'accord, c'est vrai. C'est pas sérieux. C'est clair, vous voyez? Alors il faut quand même restituer ça, ce qui s'appelle Emunat Chachamim. C'est rare, mais ça existe. Et quand on a eu la chance d'en rencontrer, alors le monde a changé de sens, et je vous le souhaite. Moi, j'ai été privilégié. Je veux dire, j'ai fait partie d'une génération privilégiée. Nous avons eu beaucoup de maîtres, et des vrais maîtres. Et alors, on sait que c'est d'une nature différente que ces espèces de plumitifs, je ne sais pas comment dire ça, Vaïda les appelait des cacographes. qui disait pourquoi sur n'importe quoi et donc c'est l'air. On revient au sujet. Est-ce qu'il y a une autre question? Okay. Oui, alors on rentre dans ça alors là. Okay. Bien. Alors, je vous résume très très brièvement ce que nous avons vu hier, parce que je voudrais qu'on essaie de finir l'essentiel ce soir. Demain, nous aurons un autre texte à... Je vous parlerai des horaires de demain tout à l'heure. Nous aurons un autre texte à lire, à moins qu'il s'avère qu'il faille rester les demain et après-demain sur le même texte, ce que je ne souhaiterais pas, il faut trouver ma bonne. Voilà, le Shah Aléola a étudié une question en posant, en s'interrogeant sur ce que dit un verset de la paracha Toldot, dont je vous avais d'ailleurs donné la référence hier. C'est, je vais dire tout de suite le verset, le verset 25, pardon, 28 du chapitre 25 de la Genèse. Lorsque Jacob et Ésaü sont nés dans la famille de Isaac et de Rebecca, comme vous le savez, ils sont nés comme jumeaux, et lorsque ils ont grandi, alors la différence est apparue, quelle que soit l'analogie, puisqu'ils sont jumeaux, que l'un est devenu un chasseur, vous rappelez, alors que Jacob est paisible, habitant les tentes, et le Midrash va expliquer qu'il est l'homme de l'étude, il est voué à la vérité, en poussant les choses à la limite rapidement, on dirait suffisamment clair, ce sont des choses étudiées d'autre part, que Ésaü se voue à ce monde-ci, comme ce monde-ci, à ce monde-ci refermé sur lui-même, à ce monde-ci exclusif du monde à venir. Et là, vous voyez que votre question était vraiment dans le sujet de ce soir. Alors que Jacob se voue au monde à venir, à travers la recherche de la vérité. Mais il vit dans ce monde-ci. D'où le drame. Je répète, c'est deux manières d'être homme. Elles sont jumelles à l'origine. L'une, Ésaü, a la vocation de ce monde-ci. En fin de compte, la vocation de ce monde-ci, c'est la chasse. Ça veut dire quoi ? Chercher la nourriture. Pour assurer la subsistance de la vie. Mais tous les autres métiers, du métier d'être, du métier d'homme, finalement, tournent autour de assurer la nourriture, apporter la nourriture dans la bouche du père, Isaac. Et le père a le goût de la nourriture des Ésaü dans sa bouche. Alors que Jacob, lui, il est l'homme de l'étude de la vérité, l'étude de la Torah, disons, l'homme du monde à venir. Dans ce monde-ci, il se prépare au monde à venir. Donc il est étranger dans ce monde-ci. Et sa maison, c'est une tente dans ce monde-ci. Alors que ce monde-ci appartient à Ésaü, et on voit, d'où la question du Shah Aléola, verset 28. Voyez, Ahav Yitzhak est très simple. Et Isaac aima Ésaü. J'ai commencé les lapsus, mais vous me corrigerez. Et Isaac a aimé Ésaü. Bon, alors on est familier parce que c'est écrit qu'on le lit et qu'on le relit. Le Shah Aléola nous oblige à nous étonner comment Isaac peut aimer Ésaü. Et alors il faut donc expliquer l'explication que dans la Torah, qui Tsaïd Befi, car il avait le goût du gibier dans la bouche. Alors le pshat, c'est que Ésaü avait goût du gibier dans la bouche. Et le drash, l'étude que nous avons avec le Shah Aléola, non, c'est pas du tout ça. C'est Ésaü avait un gibier dans la bouche. Et quel est ce gibier? Alors là, on va rentrer dans notre sujet. Quel est ce gibier? Et bien voilà, le Shah Aléola nous dit que lorsque Isaac a vu que la descendance de Jacob risquait de tomber dans l'enfer à cause des fautes, eh bien, il a vu que Ésaü aurait la capacité de prendre à l'enfer cette proie, Israël dans l'enfer, et de la garder dans sa bouche, c'est l'exil chez Ésaü. Alors, est-ce que c'est suffisamment décrypté, okay? Oui, au niveau exégétique, le pshat du verset nous dit qu'Itsaïd Befib, Isaac avait le goût du gibier dans la bouche. Il aimait Ésaü parce qu'Ésaü lui donnait à manger. Il est l'homme de la vocation matérielle qui, en fin de compte, aboutit à donner la nourriture et à faire exister dans ce monde. C'est une tâche importante. Et c'est la tâche du premier-né, ici, apparemment. Et alors que la Kabbalah va nous enseigner tout à fait autre chose. C'est que, en fait, il faut lire que le sujet de Tsaïd Befib, c'est Ésaü lui-même. Et quelle est cette proie qu'Ésaü avait dans la bouche? Je vous avais cité un Midrash de Zohar, c'était un Neshama de Rabbi Meir, c'était la force de la Torah chez Balpé. Et alors, ici, nous avons un autre enseignement. Alors, je reviens à l'enseignement concernant l'exil. Voilà. Éventuellement, si on n'arrive pas à être le tzaddik dans ce monde-ci, on tombe dans le Gehinam. Alors, il y a une sorte de parenthèse de rattrapage, l'exil chez Ésaü. Alors voilà pourquoi va nous dire ce texte. Vous voyez, son texte très condensé, mais j'espère qu'on a suffisamment perçu le thème qu'il veut déployer. Voilà pourquoi nous dit-il, va arriver que l'histoire d'Israël aura cette caractéristique d'avoir une longue histoire d'exil, entrecoupée de temps de salut, si vous voulez, mais une longue histoire d'exil. Israël, dans ce monde-ci, est en exil. Nous avons beaucoup parlé de ça hier, mais je résume. Et en particulier, un exil chez Ésaü. Et nous avons vu d'ailleurs que